À force, il y a un agacement et une tristesse à porter sans arrêt ces masques. Il y a peut-être une bonne raison sanitaire, mais il n'empêche, il y a un agacement, une tristesse provoquée par le port du masque, parce que nous ne voyons plus les visages, nous ne voyons plus les expressions du visage. Nous sommes gênés dans notre communication. Or, nous avons besoin de communication. Nous nous nourrissons d'échanges. Et le visage est le premier outil de cet échange. Cette réalité humaine de la nécessité de l'échange est aussi une réalité spirituelle. Est-il possible d'échanger avec son Dieu ? Comment peut-on échanger avec son Dieu ? Notre Dieu a-t-il un visage sur lequel comprendre ce qu'il nous dit, comprendre ses sentiments pour nous ? Lorsqu'on fait cette expérience de la difficulté de la communication quand les visages sont masqués, on comprend mieux aussi la terrible mesure qui avait été imposée au peuple juif, l'interdiction de se faire une représentation de son Dieu. Alors qu'autour de lui, autour du peuple juif, tous les peuples se font des images, des idoles, tous les peuples donnent une image, un visage à leur Dieu, pour Israël, cela était interdit. Il n'était pas possible de représenter le visage de leur Dieu. Et lorsqu'ils avaient voulu le faire lors de l'épisode du veau d'or, cela avait mal tourné. Le Seigneur le leur avait interdit. Alors au niveau spirituel, nous pouvons comprendre par analogie la frustration que cela pouvait être et de temps à autre le désir violent même de contrevenir à ce commandement pour voir quelque chose plutôt que rien. Mais le risque, c'est que ce que l'homme produit et veut faire passer pour Dieu est terriblement dangereux, car terriblement décevant. Cela prétend être éternel, mais comme c'est fait de main d'homme, cela ne fait que passer. Cela prétend donner le bonheur, et pourtant très vite cela est épuisé. L'idole déçoit. Et finalement, l'idole anesthésie le désir de Dieu, de voir Dieu, au fur et à mesure des expériences décevantes. On peut penser à toutes les formes d'addiction, que ce soit dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe. Cette addiction qui est censée nous donner le bonheur, un flash de bonheur, mais qui s'épuise très vite et qui provoque une descente, une déception. Ce que l'homme produit ne fait que passer. Or, en ce dimanche, une parole nouvelle intervient, un témoignage nouveau survient, le témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste annonce « Il vient derrière moi, le Sauveur. Il est parmi vous. » Il annonce une présence. Il annonce un visage. Il annonce le visage de Dieu qui visite son peuple. Et cela est un motif de joie. Déjà cette présence, déjà ce visage, on va pouvoir s'expliquer. On peut déjà penser analogiquement combien le fait de voir une personne avec qui l'on veut parler, ou parfois s'expliquer, mettre les choses au clair parce qu'il y avait un différent, est important. Nous avons tous fait cette expérience de combien on peut gamberger en imaginant sans cesse les dialogues que l'on va avoir sans qu'ils puissent avoir lieu parce que la personne n'est pas là. Et enfin, elle est là. Enfin, on peut se parler. Enfin, on peut se voir et s'entendre. Enfin, on peut discuter et mettre les choses à plat. Eh bien, voilà que notre Dieu vient. Jean-Baptiste annonce que notre Dieu vient avec un visage que nous pouvons interpeller. L'expérience de la vie spirituelle manifeste bien que ce n'est pas exactement la même chose de prier retiré dans sa chambre ou de prier dans les transports en commun ou bien dans une église près du tabernacle. Assurément, dans tous ces endroits, on peut prier. Mais lorsque Jésus hostie est à proximité, il y a une grâce de présence qui nous transforme, même inconsciemment, un peu comme l'été, on peut continuer à bronzer à travers même les nuages. La présence du Seigneur nous transforme. Souvenons-nous, dans le livre de Job, lui qui connaît tant de misère, ses compagnons essaient de trouver une explication à sa misère, mais il n'y a aucune parole de ses compagnons qui peut l'apaiser. La seule chose qui apaise Job, c'est la présence du Seigneur qui, à la fin du livre, se manifeste. Cette présence de Dieu qu'il peut interpeller, cette présence de Dieu qui lui répond. Jean-Baptiste nous annonce non seulement une présence, mais un visage, un interlocuteur dans notre nature humaine. Le mystère de Noël auquel nous nous préparons nous offre la réalité de ce visage. Le Christ nous offre l'image du Dieu invisible, et pas simplement l'image, mais l'image ressemblante. Alors que cette image avait été défigurée en l'homme par le péché, en Jésus, nous la trouvons non seulement restaurée, mais accomplie, achevée. Il nous est tous arrivé de voir parfois des portraitistes pas très doués et de se dire « Mais est-ce que c'est vraiment mon portrait qui a été fait? C'est bien mon image, mais pas ma ressemblance. » Et voilà qu'en Jésus, la ressemblance de Dieu est achevée, nette, belle, accessible. Voilà l'image réelle, mais non faite de main d'homme. Si Dieu avait interdit à Israël de se faire des images, des idoles, c'est qu'il voulait la lui donner lui-même. Une image ressemblante et non décevante. Une image pérenne et non éphémère. Voilà qu'en ce troisième dimanche de l'Avent, nous sommes peut-être appelés à redécouvrir cette présence et ce visage de Dieu. Visage de Dieu que nous pouvons contempler d'une façon mystérieuse et pourtant réelle à travers l'exposition du Saint-Sacrement. Présence de Dieu que nous pouvons éprouver auprès du tabernacle, ou même d'une façon toute particulière avec l'image de ce visage sur le linceul de Turin. Les témoignages sont nombreux et répétés de ceux dont le cœur et la mémoire ont été purifiés par la contemplation directe avec leurs yeux posés sur ce visage du linceul du Turin, ou sur l'hostie consacrée, exposée. Cependant, ce témoignage qui annonce la bonne nouvelle du visage de Dieu qui se révèle et menacé, et c'est peut-être l'aspect le plus rugueux de cet évangile. Vous vous rappelez de la parole de ceux qui interrogent Jean-Baptiste, « Pourquoi baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Pourquoi nous déranges-tu, en fait, si tu n'es pas celui qui vient? Pourquoi nous parles-tu de Dieu, si tu n'es pas Dieu? Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de décevant dans le témoignage, parce que le témoin n'est que le témoin d'un autre, et que parfois on voudrait que ce soit l'autre, tout de suite, et que le témoin dit, mais je n'ai à offrir que mon témoignage. Et ceux qui vivent dans les cellules paroissiales d'évangélisation, cette expérience de l'oïkos, l'évangélisation de notre entourage, savent combien c'est parfois pas évident de parler à quelqu'un qui nous entoure du Seigneur, de lui dire simplement quelque chose de ce que nous vivons avec le Seigneur. Parce que, justement, on se dit, je vais être un peu décevant, il aurait besoin de Dieu, il aurait besoin de la vie même de Dieu, de la présence même de Dieu, et je n'ai que ma pauvre présence, je n'ai que mon savoir limité, je n'ai que ma foi avec ses défauts, ses hésitations. Est-ce que j'ai vraiment la légitimité pour ouvrir la parole, pour prendre la parole, pour ouvrir la bouche? Jean-Baptiste vient nous montrer la voie. Jean-Baptiste refuse de se laisser enfermer dans le silence. Premièrement, il a été envoyé. Il en a reçu la mission. Le début de l'Évangile nous le disait, il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Et Jean-Baptiste ne s'est pas dérobé. À sa suite, nous non plus ne nous dérobons pas. Nous sommes envoyés par notre baptême. Nous sommes envoyés rendre témoignage au Christ devant le monde. Même en ce temps de détresse, où l'on peut vouloir nous dire « Mais si tu n'as pas un moyen de me sortir immédiatement de ma détresse, tais-toi. » C'est la fidélité de Jean-Baptiste à la mission qu'il sait avoir reçue de Dieu qui lui donne la légitimité de parler. Mais il y a une autre qualité de Jean-Baptiste qui lui permet de parler, c'est son humilité. Elle est évoquée dans l'Évangile. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Et Jean-Baptiste ne nie pas qu'il ne soit pas le Messie, qu'il n'est pas le prophète, il n'est pas le nouveau Moïse. Remarquez qu'il résiste à une tentation d'usurpation de la fonction. Comment cela ? Il est en face de gens qui sont tout prêts à le croire s'il dit « En fait, c'est vrai, c'est moi le Messie ». Ils sont tout prêts à le croire. Jean-Baptiste refuse à cette tentation de prétendre être celui qui vient, de prétendre être celui qui sauve l'homme des affres du péché et de la mort. Et cette humilité de Jean-Baptiste est un signe extrêmement précieux pour nous dans notre vie spirituelle, pour ne pas nous laisser conduire par des gourous. Qu'est-ce que c'est un gourou ? C'est quelqu'un qui va se dire essentiel à votre salut, mais essentiel au sens où c'est lui qui doit prendre la décision pour vous. Parfois c'est tentant, hein, parce que c'est d'une certaine manière, ça demande moins d'efforts. Qu'est-ce qu'il faut que je pense ? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Dites-moi. Que je n'ai pas à réfléchir, que je n'ai pas à discerner, parce que c'est compliqué. Le gourou assume volontiers cette prise de possession du discernement. Alors que Jean-Baptiste, les apôtres, les disciples de Jésus agissent tout à fait différemment. Ils donnent la lumière de l'Évangile pour permettre à chacun de discerner. Viens et vois. Voilà ce qu'ils disent. Nous pensons avoir trouvé le Messie. Viens et vois. Ils conduisent à Jésus. Il donne de connaître la présence de Jésus pour que chacun nous nous approchions et que nous développions une relation personnelle avec lui et que nous développions notre capacité de discernement et de décision qui est un don de Dieu parce que Dieu nous appelle à l'amour et qu'il n'y a pas d'amour sans un engagement libre de notre volonté et de notre discernement. Le disciple du Christ nous aide à discerner à la lumière de l'Évangile, à faire notre choix. Le gourou nous propose un choix tout fait que lui a réalisé à notre place, mais qui ne nous fait pas grandir, qui ne nous ouvre pas à cette capacité d'entrer en alliance avec Dieu. Non, Jean-Baptiste ne prétend pas être un autre. Il ne prétend pas être lui la solution à tous les problèmes du cœur de l'homme. Il n'instaure pas un lien de dépendance avec sa personne chez ses disciples. Jean-Baptiste affirme qu'il n'est même pas digne de délier la courroie de sa sandale, un geste qui était celui de l'esclave quand le maître arrivait dans la maison. Eh bien, à notre tour, auprès de notre entourage, n'ayons pas peur d'avoir un côté un peu décevant, en ce sens que nous ne sommes pas le Messie. N'ayons pas peur de ce côté un peu décevant en accomplissant notre mission de témoin, car c'est en effet le Seigneur lui-même qui veut que nous donnions au cœur de se préparer à la rencontre de son visage. Notre témoignage n'est pas vain. Il permet au cœur et aux esprits assoupis de se réveiller et de retrouver la soif de la rencontre du visage de Dieu. Il vient, vous le verrez, ce visage auquel vous pourrez vous adresser, auquel vous pourrez, avec lequel vous pourrez mettre les choses à plat, dont vous pourrez entendre la tendresse. Il vient, le Seigneur. Saint Jean-Baptiste, en ce troisième dimanche du temps de l'Avent, intercède pour nous, que nous soyons fidèles à notre mission de prophète que le baptême nous a conférée. Apprends-nous aussi cette humilité et cette audace pour témoigner du visage de celui qui vient. Il sera notre joie complète. À ta suite, nous le croyons. Amen.